Pour cette troisième partie, Bertrand Maltier, on va un petit peu se pencher sur votre caractéristique de globe-trotter d'une certaine façon, parce que vous vous occupez de tourisme, mais vous êtes aussi souvent un touriste et vous avez, je crois, une prédilection pour l'Asie.
Alors effectivement, je suis de moins en moins malheureusement, parce que le temps me le permet plus et je le regrette, mais tous les deux ans, je fais un voyage en Asie du Sud-Est avec une association d'anciens joueurs de rugby, où on a monté une association d'intérêt général, où on fait de l'action humanitaire, on profite d'un loisir de voyage en Asie du Sud-Est. Alors ce sont des vieux souvenirs, parce qu'il y a 25 ans, avec l'équipe universitaire, nous étions partis faire le tournoi d'Asie du Sud-Est et je suis tombé amoureux de l'ancienne Indochine, du Laos, du Vietnam, du Cambodge, qui faisait partie de cette Indochine. Et ce sont des paysages merveilleux, des populations adorables. Et depuis, j'essaye tous les deux ans de repartir en joignant l'utile à l'agréable, en faisant une action humanitaire sur ces pays.
Alors, première parenthèse, vous êtes allé avec une équipe de rugby, sous-entendu, on joue au rugby en Indochine?
On joue au rugby, oui, on a joué sur des terrains extraordinaires, à Vientiane, la capitale du Laos, avec des poteaux, un terrain qui était difficilement jouable pour le commun des mortels, mais on a participé à un match extraordinaire. On est allé jouer à Hanoï, au Vietnam, contre l'équipe nationale universitaire du Vietnam. Ils se passionnent, il y a des équipes de rugby un peu partout en Asie du Sud-Est. Et alors, la première fois que j'y suis allé dans le cadre de ce tournoi, j'avais 20 ans. Et j'y retourne avec plaisir chaque année, où je revois des anciens joueurs. Et en tout cas, nous sommes constitués en association et on essaye de partir tous les deux ans rendre visite. Et maintenant, avec l'âge et la volonté d'aider notre prochain, on apporte de l'aide humanitaire dans ces pays.
Sur laquelle on va revenir, mais aujourd'hui, joue-t-on encore au rugby ?
Toujours. Il y a des équipes un peu partout.
Il y a des fédérations,
enfin. Oui, les Buffalo de Vientiane existent toujours. Il y a une fédération de rugby d'Asie du Sud-Est. Il y a toujours le tournoi d'Asie du Sud-Est qui regroupe les équipes de Thaïlande, de Malaisie, du Laos, du Vietnam et du Cambodge. Et il y a une pratique qui n'est pas la pratique la plus répandue, puisque le football, comme souvent dans ces pays, a pris le dessus. Mais le rugby existe dans ces pays d'Asie du Sud-Est.
Voilà, c'est pas les All Blacks, mais on joue quand même au rugby. Alors, on va revenir aussi sur le fait, Bertrand Maltier, que tous ces pays que vous avez mentionnés, Laos, Cambodge, Vietnam, sont d'anciennes colonies françaises, l'Indochine. On va y revenir. Mais sur l'humanitaire, alors comment ça se passe? Par exemple, là, vous y êtes allé récemment. Ouais. Quelle œuvre humanitaire avez-vous faite?
Alors là, c'était un voyage au Cambodge, là où je suis rentré là il y a quelques jours là, et on est parti on en a profité donc de notre voyage pour nous rendre à Phnom Penh, la capitale du Cambodge, et pour aller aider une association, une ONG locale qui s'appelle Peta Clara, et nous avons accompagné le développement d'une aile d'un orphelinat. C'est un orphelinat qui avait une trentaine d'enfants, et après le Covid, il y a eu beaucoup plus d'abandon, et aujourd'hui il y a un nombre d'enfants important, et donc nous avons participé à l'extension financièrement de cet orphelinat. Voilà, c'était l'action de l'année 2023.
Et quand vous êtes allé au Cambodge, célèbre pour le temple d'Angkor, j'imagine que vous avez fait cette visite prestigieuse.
Oui, on a passé, alors c'est immense les temples d'Angkor et on les accorde au pluriel, un territoire de plusieurs hectares.
C'était une grande ville.
Une grande civilisation qui a été abandonnée, ces temples, parce que la végétation a gangréné. Alors ça donne un côté aux visiteurs un peu extraordinaire de forêt magique où se tournent un peu les grands films, parce que il y a un côté magique avec cette végétation qui pénètre la pierre.
Imbrication
entre le végétal et la pierre. Et je crois que le dernier Mowgli a été tourné dans ce contexte des temples d'Angkor. Il y a beaucoup de films qui s'y tournent. Mais la végétation abîme l'héritage historique et aujourd'hui la communauté internationale, enfin aujourd'hui depuis quelques années maintenant, s'est réveillée et tente de préserver au maximum cet héritage, ce patrimoine de l'humanité pour le rendre encore le conserver et le rendre visible à l'ensemble de la population qui souhaite faire sa connaissance.
Alors, le Cambodge, c'est aussi une ancienne colonie française, c'était un protectorat, donc sous influence française pendant longtemps. Aujourd'hui, reste-t-il des traces de cette colonisation ?
très peu
visible, je veux dire.
Très peu, voire pas du tout. Déjà, il y a beaucoup moins de francophones qu'il y a quelques années en arrière. On étudie l'anglais. Les influences sont maintenant chinoises. Beaucoup d'investisseurs chinois ont envahi le Cambodge, ont porté des investissements lourds. Il y a une autoroute qui a été créée vers les plages du Cambodge par les Chinois. Une autoroute qui est trop coûteuse pour les Cambodgiens, qu'ils n'utilisent pas. C'est une autoroute exclusivement destinée aux Chinois. Et ils ont envahi Sihanoukville, qui était la plage du roi Sihanouk. Eh bien, c'est une plage où il n'y a plus de Cambodgiens, il n'y a plus de touristes, il n'y a que des Chinois. Sihanoukville est devenue une plage uniquement chinoise. Donc il n'y a plus d'influence française, il n'y a plus de francophones ou quasiment plus de francophones. Il n'y a que les vieux habitants, les vieux Cambodgiens qui parlent encore un peu le français, quelques jeunes qui le découvrent à l'université de Phnom Penh. Mais il y a très peu de traces de l'histoire du passage français, contrairement aux villes voisines, aux pays voisins, pardon, comme le Laos ou à Vientiane, il y a encore la poste des établissements qui portent le nom d'équipement français, ou à Saigon, maintenant Ho Chi Minh Ville, où vous avez une gare Eiffel magnifique, vous avez Notre-Dame de Saigon, la cathédrale de Saigon, où vous avez beaucoup d'écriteaux marqués en français, des noms de rues qui portent l'héritage de cette connexion avec les Français.
Oui, et le Vietnam, alors, qui lui, rappelons-le, a quand même connu deux guerres, d'abord une contre la France, et puis une contre les États-Unis. Là, c'est pareil. Est-ce que vous, à part sur le plan architectural, est-ce qu'il y a encore des présences françaises plus ou francophones ou francophiles plus sensibles
au Vietnam?
Oui.
Alors, il y a un peu plus de francophones. Vraiment, ce qu'on parlait, c'était l'architecture, l'héritage patrimonial qui reste à connotation française, le théâtre, l'opéra notamment, les bâtis. Mais il y a de moins en moins, on retrouve plus de francophones au sud, l'ancienne Saigon, qu'au nord, à Hanoï, où il y a beaucoup plus d'anglophones. Là aussi, présence chinoise très forte. Dans la capitale, Ho Chi Minh Ville, le métro est porté par des investisseurs chinois. La présence très forte des Chinois et l'influence anglophone, où maintenant l'anglais est devenu la langue du commerce et la langue des échanges.
Oui, et donc la puissance tutélaire, maintenant, c'est la Chine.
C'est la Chine. La Chine a vraiment pris la mainmise sur l'Asie du Sud-Est, en dehors de la Thaïlande qui est très fière de son indépendance. Mais au Laos, au Cambodge, au Vietnam, il y a une présence très forte chinoise.
Et alors à propos de Chine, vous avez beaucoup parcouru ses voisins, ses pays voisins, mais la Chine elle-même, apparemment, ça ne vous tente pas.
Non, la Chine ne me tente pas.
Pour des raisons à cause
rien
du,
à voir avec
à cause du régime politique.
Oui, peut-être le régime politique un peu trop dictatorial, même si ce sont des pays qui connaissent des démocraties très relatives. Le Cambodge a une monarchie constitutionnelle avec un premier ministre qui est présent depuis plus de 30 ans et qui n'a pas l'air d'aimer trop le débat démocratique, puisque son principal opposant a été enfermé il y a quelques années en arrière, et je crois qu'il est toujours en cours de procès. Mais la Chine, non, m'a jamais attiré. J'irai un jour parce que, peut-être pas en ce moment, mais la Grande Muraille de Chine, parce que j'ai cette envie de découvrir par les livres. Moi, je voyage aussi par le roman, par les livres, mais j'aime aussi le côté physique, les senteurs, la gastronomie et voyager concrètement dans ces pays.
Voilà. Mais qui vous semble alors pas moins développé, mais peut-être moins technocratisé, ou c'est quoi est-ce qu'on peut percevoir ce que vous percevez pour faire ce distinguo?
Alors moi j'aime pourquoi je suis tombé amoureux il y a 20 ans de l'Asie du Sud-Est, parce que je suis amoureux d'un fleuve qui s'appelle le Mekong et qui coule à un rythme très lent, et j'aime, alors autant dans la vie de tous les jours je vais à un rythme très élevé, je cours un peu partout, j'essaye de me déployer pour répondre au travail, à mes obligations professionnelles ou mes mandats politiques, autant quand je coupe, j'aime prendre le rythme du Mekong, le Palao par exemple au Laos, et tous ces pays sont traversés par le Mékong. Le Mékong se jette ensuite dans le delta du Mékong, là au sud de Saïgon. Et j'aime ce rythme. Donc j'aime ce côté sauvage, ce côté caractère lent, vie lente de ces pays. Et j'aime la gastronomie, j'aime les peuples qu'on y rencontre, j'aime la diversité des paysages. Et je me plais, donc je m'épanouis au cours de ces voyages.
Voilà, c'est là où véritablement vous vous ressourcez. Il vous faut totalement L'Asie du Sud-Est.
Il me faut une coupure. Alors, j'en parlais il y a quelques temps avec un ami. On est parti 9 jours au Cambodge. C'est très court, 13 heures de vol à l'aller, 13 heures de vol retour. Et sur place, le matin, je fais mes mails. Donc, je me coupe véritablement les après-midi avec le décalage horaire. On est joignable maintenant par téléphone, malheureusement, dans le monde entier.
C'est vrai, à l'instant présent.
Donc, on est déconnecté que ponctuellement, on est vite rattrapé par la réalité. Mais bon, on s'y habitue. Je travaille le matin un petit peu, je lis mes mails, je vais plus lentement, je réponds aux mails à un rythme qui n'est pas celui habituel.
Au rythme du Mékong,
voilà.
Bien, c'est là-dessus.
J'ai repéré le rythme de la robine rapidement.
Merci Bertrand Valquier de nous avoir offert cette pointe d'exotisme dans Radio Barque. Mais pour parler de tourisme, on voit que vous êtes assez qualifié puisque vous-même, vous pratiquez énormément cette discipline. Merci encore et d'être venu pour au pied levé, je le rappelle, remplacer Didier Mouly pour ce Radio Barque. Les prochains Radio Barque verront l'invitation. Alors d'abord de Régis Banquet, président de Carcassonne Agglo. Après quoi nous recevrons le premier secrétaire du Parti socialiste actuel, Alix Soler Alcaraz, et puis un petit peu plus tard également le président de la CCI, Louis Madol. Voilà pour les prochains invités. Merci encore aux auditeurs de nous avoir suivis. Merci Bertrand Malquier et à la semaine prochaine.
Merci Jean-Claude Jules.